Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Nous allons revenir sur 7 jours d'événements avec les reportages et les correspondances de la rédaction. Nous partirons pour l'Espagne, la Catalogne ou la Corée du Sud. Dans la seconde partie de l'émission, après le flash, nous ferons le point sur l'actualité africaine et française aussi. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, il va beaucoup être question de la France cette semaine, de la France vue de l'Élysée, de la présidence de la République, avec notre invité qui a travaillé 5 ans aux côtés de François Hollande. Il s'agit de Patrice Biancone. Les plus fidèles d'entre vous se souviennent de son nom car Patrice a travaillé de longues années à RFI. Une semaine d'actualité, une émission à retrouver aussi sur le site de la radio RFI.fr. Bonjour Patrice Biancone.
Bonjour.
Je suis ravi de vous
revenir ici, pour moi c'est un bonheur.
Pour ne rien cacher aux auditeurs, on a longtemps travaillé ensemble. Voilà, ils le savent, peut-être s'en souviennent-ils également.
L'émission Carrefour.
Voilà, La malédiction de l'Élysée, c'est le titre du livre, du témoignage que vous nous livrez, qui est à la fois un témoignage sur votre fonction. Alors je rappelle que vous avez été le directeur de cabinet de Valérie Trierweiler, la première dame à l'Élysée, puis ensuite conseiller chargé de l'action humanitaire, des ONG, des associations,
de la vie associative.
Donc vous avez vraiment suivi la vie politique de très près, et pour cause à l'Élysée pendant 5 ans. Pas réjouissante ces coulisses. Les lecteurs de votre livre, que j'espère nombreux, ne vont pas se réconcilier avec la politique en lisant votre livre.
Mais écoutez, c'est toute la question, c'est tout le problème, et c'est l'objet de finalement du livre que j'ai produit, La malédiction de l'Élysée.
Comment ils ont gâché la fête?
Oui, parce que ce quinquennat en particulier est mal parti. Alors effectivement, quand on s'engage dans ce genre d'aventure, on a de l'espoir parce que on pense qu'on va jouer un rôle, en tout cas à son petit niveau, à son humble niveau, un rôle qui peut apporter au pays, c'est-à-dire finalement quand on rentre soit à l'Élysée, soit à Matignon ou dans un ministère, qu'est-ce qu'on vient faire? Ben, on vient en tout cas servir la République, ou du moins quelques idées avec lesquelles on est d'accord. C'est ce que j'ai fait, c'était ma démarche, l'objet de ma démarche. Et puis quand on arrive sur place, eh bien écoutez, comme on dit, la réalité se charge de vous remettre en place, et on se rend bien compte que souvent on veut changer la vie, mais que finalement c'est la vie qui vous change.
Alors,
c'est
un peu ça. Votre livre est un livre de témoignage sur votre action en tant que directeur de cabinet avec Valérie Trierweiler et donc comme conseiller. Mais c'est une réflexion sur le pouvoir aussi. Je sais que ça vous intéresse depuis longtemps, cette question. Et je vous cite, dès le début de cette émission, pourquoi désirent-ils tous si ardemment s'asseoir dans ce fauteuil de président et occuper une fonction qui isole et détruit quasiment tout autour de celui qui la remplit?
Oui, c'est mon constat. Quand on regarde, en tout cas pour la Ve République, parce qu'auparavant le président avait un rôle tout à fait différent, mais avec la Ve République où il a eu le rôle prédominant, on voit bien que tous ceux qui se sont succédés rue du Faubourg-Saint-Honoré ont fini seuls, souvent. On parle beaucoup de Jacques Chirac, le téléphone, disait-il récemment encore, ne sonne plus. On finit seul, François Mitterrand a fini assez seul aussi. Le général de Gaulle, n'en parlons pas, on se souvient de son voyage en Irlande. Giscard d'Estaing, c'est quasiment l'oublié. Il y en a qu'un qui a un peu échappé à cette règle, c'est Nicolas Sarkozy, parce que lui, il a voulu rester dans l'action. Il est resté en politique et il a essayé même de revenir. Donc il était en marche toujours, ce qui permet de rester sur le manège. Alors, on ne dit pas qu'il va arriver à faire atteindre ses objectifs, mais en tout cas, il est resté en piste. Et j'ai l'impression que François Hollande est en train de s'engager sur un peu ce même chemin.
Alors, vous aviez une particularité, Patrice Biancone, à l'Élysée, c'est que vous étiez au cœur d'un couple, Valérie Trierweiler, François Hollande, au cœur d'une crise intime.
Bien, si vous voulez, le chef de cabinet de la Première Dame, alors rappelons d'abord deux choses. La Première Dame, elle existe que par la volonté du président.
Il n'y a toujours pas de statut.
Il n'y a pas de statut, on n'est pas aux États-Unis. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas de budget, il n'y a rien. Donc la Première Dame, elle existe selon le bon vouloir du président qui a été élu. Il lui donne les moyens ou il ne lui donne pas les moyens. Dans le cas de François Hollande, on peut penser que Valérie n'a pas vraiment eu les moyens de s'imposer et de s'installer. Dans le cas d'Emmanuel Macron, le tout nouveau président, on voit bien qu'il veut donner toute sa place à Brigitte Macron. On le voit bien, il a fait quelques déclarations dans ce sens et il prend pour contre-modèle François Hollande, qui de ce point de vue-là a laissé une impression qui n'était pas une bonne impression dès le début de son mandat.
Alors, nous allons parcourir le monde, comme nous le faisons chaque semaine, Patrice, grâce à la richesse des reportages de RFI et son ouverture sur le monde, précisément. Et partons pour l'Espagne, pour reparler de la crise entre Madrid et Barcelone. À retenir cette semaine une indépendance suspendue du côté de la présidence de la Catalogne et des demandes d'explication du chef du gouvernement de Madrid. Et pendant ce temps-là, les Espagnols comptent en quelque sorte les points dans la capitale espagnole, Diane Cambon.
Les derniers épisodes du conflit catalan avec Madrid ont laissé perplexe une partie de la population espagnole. Le gouvernement catalan, qui a laissé en suspens la déclaration d'indépendance et les menaces du pouvoir central de prendre le contrôle de la Catalogne, sont perçus par certains comme des jeux de stratèges politiques. Sonia, qui tient une pharmacie dans le centre de Madrid, émet des doutes sur les intentions des dirigeants politiques.
Je crois que c'est une situation qui fait monter la tension pour nous faire croire qu'on est au bord du précipice, mais dans le fond, je crois que cela ne mène à rien. C'est pas sérieux de tenir en échec la moitié du pays. Un jour on se sépare, un jour on reste. Dans le fond, je crois qu'ils aspirent à être un paradis fiscal pour faire oublier tous les cas de corruption.
Pour de nombreux autres Espagnols, le problème catalan ne va pas se résoudre dans les semaines qui viennent. Il s'agit d'un conflit qui va s'éterniser et qui obligera les dirigeants politiques à s'asseoir autour d'une table de négociation.
À mon avis, tout cela est une stratégie politique pour obtenir l'indépendance dans les années à venir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut discuter non seulement maintenant, mais aussi plus tard. C'est la seule façon de résoudre le conflit, c'est de passer par le dialogue.
Reste à savoir désormais si les appels au dialogue du gouvernement catalan seront ou pas suivis des faits. Pour l'heure, cela n'en prend pas la direction. Madrid a donné un ultimatum aux séparatistes. Ils ont jusqu'à la semaine prochaine pour revenir dans la légalité.
Cette crise est évidemment à suivre dans nos journaux. Retour en France, nous allons faire des allers-retours entre le monde et la France. Patrice Biancone, avec un président sur plusieurs fronts encore cette semaine, nous allons y revenir. Celui, par exemple, de l'agriculture, avec la question du revenu des agriculteurs. Écoutez ce qu'a dit Emmanuel Macron mardi à la fin des États généraux de l'alimentation.
Il n'est plus possible aujourd'hui qu'en France, un tiers des agriculteurs gagne moins de 350 euros par an. Nous devons permettre aux agriculteurs de ne plus dépendre des aides et pour cela nous assurer qu'ils soient rémunérés au juste prix de leur travail. Nous avons tous une responsabilité et la toute première, c'est de mettre fin à cette guerre de prix. Je souhaite que nous puissions acter, à la lumière de vos travaux, la mise en place d'une contractualisation rénovée avec un contrat qui serait proposé par les agriculteurs et non plus par les acheteurs, ce qui est à ce titre, à mes yeux, fondamental. Nous modifierons la loi pour inverser cette construction du prix qui doit pouvoir partir des coûts de production. Les négociations commencent dans quelques semaines et je souhaite à cet égard un engagement clair de toutes les parties prenantes en ce sens auprès des ministres et sans attendre la loi.
Emmanuel Macron donc aux États généraux de l'alimentation. Une semaine d'actualité, nous revenons à la malédiction de l'Élysée avec Patrice Bianco, notre invité, l'auteur de ce livre publié au Cherche Midi. Je reviens à vos fonctions de chef de cabinet de Valérie Trierweiler. Vous avez dû gérer, comme on dit aujourd'hui, un certain nombre de crises dans un couple. Je reviens à cette situation très exceptionnelle.
Ce qui n'était pas ma fonction au départ, effectivement. Oui. Je n'étais pas venu pour cela.
On vous voit vous raconter très bien dans votre livre, qui est très écrit, et d'ailleurs je le précise, avec beaucoup de références littéraires, merci. On vous reconnaît bien là. Vous citez un jour où vous êtes retrouvé dans le bureau de François Hollande pour résoudre avec lui la question Valérie Trierweiler, si je puis m'exprimer.
Alors vous parlez du tweet ou de la séparation.
Oui. Les deux, enfin, dans les deux cas, la situation c'est insolite.
Vous savez que François Hollande n'est pas un grand diseux, comme on dit. Il y a une pudeur que tout le monde reconnaît. C'est une manière d'ailleurs de se défendre. Il refuse de se projeter, en tout cas de projeter ses sentiments, de les montrer. C'est pour ça qu'il a souvent un visage comme ça un peu lisse, où il est difficile de lire quelques sentiments que ce soit. C'est tout à fait impossible avec lui. Il ne montre rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans l'affect. Il a fait une déclaration il y a quelques jours là-dessus en disant, notamment à Franz-Olivier Gisbert dans son documentaire, dans lequel il dit que l'affect, c'est une, quelque chose qu'il revendique, qu'il possède, effectivement. Mais il est dans une posture, il était dans une posture de président de la République, c'est-à-dire un homme qui ne devait pas montrer quand il était touché, quand il était blessé ou quand il était heureux. C'est-à-dire ne pas laisser passer ses sentiments, ne pas les afficher. Il a toujours fonctionné ainsi. Et c'est ce que, sans doute, les Français ont regretté, comparativement à Jacques Chirac, qui, lui, était le roi du compassionnel, si vous voulez. Quand Chirac s'exprimait, on avait l'impression qu'il était vraiment touché, il montrait ses sentiments.
D'ailleurs, encore une différence entre l'image projetée de François Hollande, qu'on trouvait sympathique, et qu'il est sans doute, et est-ce que vous dites, est-ce que vous dites aussi, sa réserve et cette humilité.
Oui, c'est, je crois qu'il y a eu, il y avait le François Hollande d'avant l'élection, et puis il y a eu le François Hollande président, et je crois qu'effectivement, mais ça, être président, il a revendiqué une présidence normale, ça veut pas dire grand chose. Moi, je sais pas ce que c'est que quelqu'un de normal, entre guillemets. Si vous voulez. J'aurais préféré,
surtout
c'est ce que j'explique, oui, à la suite du voyage que nous avons fait avec le président, d'ailleurs, Hollande, au Japon, je suis revenu avec, après avoir vu l'empereur du Japon, et il y avait cette phrase, l'empereur du Japon, lui, il disait pas, je veux être un homme normal, vous savez que l'empereur, c'est de droit divin, au Japon, c'est un dieu vivant. Bien lui, cet empereur Akihito, dit, aujourd'hui, je veux être un empereur humain. Pas normal, humain. C'est-à-dire proche des gens. Il y a la distance, parce qu'il est empereur, mais il est humain. Il comprend les gens, il les écoute et il dialogue avec eux.
Sept jours dans le monde.
Partons pour la Corée du Sud, proche du Japon justement, où il s'avère que des hackers du Nord voisins ont piraté des informations capitales à Séoul mardi, Frédéric Ojardias.
Pas moins de 235 gigaoctets de données militaires ultra-sensibles ont été dérobés par des hackers de Pyongyang, a révélé le député sud-coréen Lee Chol-hee. Ces pirates se sont notamment emparés en septembre 2016 de plans qui contiennent les stratégies et les procédures des armées sud-coréennes et américaines en cas de guerre. Opération visant à assassiner le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, réplique aux attaques du Nord, position des infrastructures militaires ou des centrales électriques. Ce piratage est donc un désastre pour la Corée du Sud, qui renforce pourtant depuis plusieurs années ses unités de cyberdéfense pour répondre à la multiplication des attaques nord-coréennes en ligne. De leur côté, les États-Unis ont lancé depuis plusieurs mois une large offensive visant ces hackers du Nord. Le Washington Post a ainsi révélé que le Cyber Command américain avait mené des attaques dites de déni de service, ciblant les serveurs des services de renseignement de Pyongyang dans le but de leur couper l'accès à Internet, une opération qui, selon le quotidien américain, n'a eu des effets que temporaires.
Avant de revenir en France, partons maintenant dans les territoires palestiniens, à Ramallah précisément, pour revenir sur l'accord de réconciliation entre le Hamas et le Fatah signé jeudi, accord destiné en principe à mettre fin à une brouille d'une décennie environ, correspondance de Marine Vlaovic.
Appuyé sur sa canne, Mahmoud Awad tente de se frayer un passage dans les rues animées de Ramallah. Et à l'évocation de l'accord conclu entre le Fatah et le Hamas, l'octogénaire réagit vivement.
Bullshit. Ce sont des inepties, je suis désolé, mais je ne trouve pas d'autre expression.
Depuis 10 ans, les Palestiniens ont assisté à maintes tentatives de réconciliation qui se sont toutes soldées par des échecs. Cette fois-ci, Marwan Ahmed veut y croire, mais le commerçant ne peut s'empêcher d'être dubitatif.
Cet accord est peut-être une réussite, mais quand ils devront le mettre en pratique, ils feront face à des difficultés en raison de leurs différences.
Car en pratique, il y a de nombreux points de crispation, comme le démantèlement de la branche armée du mouvement islamiste. Pour Souleymane Kawasme, un jeune étudiant, les visions des deux frères ennemis sont inconciliables.
Le Hamas, c'est la résistance armée et le Fatah veut vivre en paix avec Israël. Donc ça ne peut pas coller, ça ne marchera pas.
Une nouvelle réunion est prévue au Caire le 21 novembre entre le Fatah et le Hamas.
L'actualité internationale cette semaine, c'est aussi la décision des États-Unis de se retirer de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture. Washington la trouve trop anti-israélienne. Israël a d'ailleurs annoncé aussi son retrait. États-Unis qui ont décidé de durcir leur position vis-à-vis de l'Iran, on vous en parle dans nos journaux. Et c'est aussi, on en a beaucoup parlé également ces derniers jours, un scandale à Los Angeles, à Hollywood. Harvey Weinstein, un producteur puissant, est accusé d'avoir harcelé sexuellement de jeunes actrices, mannequins et employés depuis les années 80. Des actrices célèbres ont témoigné publiquement dans le New York Times, par exemple. Depuis la semaine dernière, 3 femmes l'ont accusé de viol. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Patrice Biancone, et nous revenons au cœur du pouvoir à l'Élysée. Et si nous parlions de la gauche, Patrice, d'une certaine gauche, je vous cite, seule la gauche caviar et intello des 5e, 6e ou 7e arrondissements de Paris, hein, évidemment, la gauche parisianiste, la gauche dite hélicoptère, celle qui atteint les sommets sans avoir à grimper les chemins escarpés, et certains journalistes qui gravitent autour d'elle peuvent se comporter et penser de la sorte, le monde leur appartient, estime-t-il, sans l'avouer. Se comporter de la sorte, c'est-à-dire être totalement déconnecté des réalités.
D'une certaine façon, oui. En tout cas, le périmètre de leur monde est le périmètre du monde, si vous voulez. Or, c'est pas comme ça que les gens vivent. Moi, j'entendais des discours quand j'étais à l'Élysée, effectivement, réunion de cabinet, j'avais l'impression que entre conseillers, parfois, on parlait pas le même langage. En tout cas, on vivait pas dans le même monde. Ça, c'est certain. Vous savez, cette fameuse sortie, ça va mieux.
Oui.
On a beaucoup entendu. Le président avait choisi ce thème de communication, ce qui était, à mon sens, pas le meilleur choix à faire.
Avec la fameuse courbe du chômage.
Oui, entre autres. Et puis, la croissance de retour, demain. Et puis, finalement, on finit par ne plus croire celui qui porte la parole, parce que les choses ne viennent pas. On les annonce, mais ne viennent pas. Je pense qu'il vaut mieux faire et ensuite dire, que dire, et ensuite essayer de faire. Parce que là, on n'est jamais certain du résultat.
Mais la gauche avait tant promis.
La gauche avait beaucoup promis, peut-être trop promis, en tout cas, dans
François
son
Hollande,
discours,
en tout cas.
Dans son discours du Bourget. Et c'est peut-être là qu'il y a eu...
Mon ennemi, c'est la finance, disait-il.
Oui, alors entre autres, il aurait pu ajouter la finance qui ne produit pas, qui ne produit rien, parce que la finance, elle est dans le système. Ou alors, à moins de dire que le monde libéral tel qu'il est défini, eh bien, ne vaut plus rien et qu'il faut en changer. Mais à partir du moment où on accepte cette conformation du monde avec ce partage et cette domination de l'économie libérale, eh bien il faut jouer avec ses principes. Voilà, c'est tout simple, ce qu'on a un peu oublié de faire, en tout cas dans le discours, puisque au Bourget il y a eu les annonces dont vous parlez, il y en a eu d'autres qui ont poussé les gens à croire que oui, enfin, avec François Hollande qui était un homme effectivement d'une grande simplicité, d'un abord facile, etc., les choses pouvaient enfin changer parce qu'il n'était pas intéressé par l'accumulation d'argent, par les grands mouvements de la finance. Lui, c'est autre chose qui l'intéresse. C'est l'économie. Et l'économie ne se résume pas à la finance.
Et vous dites aussi qu'il s'intéressait aussi, et peut-être s'intéresse-t-il toujours d'ailleurs, à ceux qui réussissent.
C'est effectivement, voilà, il se méfie quand on dit que il n'a pas d'affect, c'est qu'il trouve que les manifestations humaines se relèvent souvent de la sensiblerie. Donc il veut éviter ce piège. C'est pour ça qu'il a cette espèce de froideur, cette espèce de gêne même parfois quand il est avec les Français. Il est souriant, il va vers eux, mais dans le fond, il n'y a pas de vrai discours quand il s'adresse à eux. C'est toujours ce qui m'a semblé.
Et vous brossez aussi un portrait aigre-doux de Jean-Pierre Jouyet, qui était le secrétaire général de l'Élysée, qui en gros ne s'intéressait qu'à ceux qui sortaient de l'ENA.
Ben, Jean-Pierre Jouyet, c'est une particularité que certains connaissent, d'autres pas. Il a été ministre de Nicolas Sarkozy, oui. Après avoir été pendant des années, des décennies, l'ami personnel et très proche, et peut-être le meilleur ami de François Hollande. Bon, et il a jugé qu'en être, c'était plus important que la rose, finalement. Hein. C'était un peu ça. Il n'y a pas de conviction politique. Nous, il nous disait régulièrement, quand on était en réunion, je suis, alors ceux qui disaient, en parlant de Macron, il n'est ni de droite ni de gauche, lui nous disait, moi, je suis de droite et de gauche, ce qui est une façon de le retrouver, en retournant la formule, si vous voulez, mais montrer qu'il était au moins d'accord sur ces grands principes, qui sont les principes libéraux d'une économie, et quand on dit social-libéral, bien souvent, ce sont les principes de l'économie libérale qui dominent. On attend le social. Et là, le président Emmanuel Macron s'attaque à ce problème à partir de maintenant, de ces derniers jours. Mmh. Et on verra au printemps l'accompagnement social, si vous voulez, de ces décisions libérales.
Et on va en reparler dans un instant après le flash, Patrice. Patrice Biancone, nous allons faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde. Et on se retrouve dans quelques 3 minutes. À tout de suite.
À tout de suite.
Merci pour toutes ces informations. On se retrouve, nous, pour notre voyage au cœur de 7 jours d'événements, avec bien sûr la rédaction. Nous sommes ce matin en compagnie de Patrice Biancone, qui en tant que chef de cabinet de la Première Dame a vu le pouvoir de près au palais de l'Élysée au temps de François Hollande. Il vient d'écrire « La malédiction de l'Élysée », un livre publié aux éditions Le Cherche Midi.
Une semaine d'actualité.
Dans quelques minutes, destination l'Afrique, mais pour le moment, arrêtons-nous en France, qui est notre principale destination cette semaine. Nous allons continuer à parler politique. Et commençons avec la campagne pour la présidence du parti Les Républicains, profondément divisé depuis l'élection présidentielle. On le sait, les prétendants sont déclarés. Anne Sautemont.
D'abord, je suis content, parce qu'aujourd'hui, c'est la refondation de la droite qui commence.
L'image a été travaillée. C'est entouré d'une dizaine d'élus que Laurent Wauquiez se présente au siège du parti. Avec le parrainage de 135 parlementaires, le favori s'affiche en rassembleur.
Ce qu'on apporte comme démonstration, c'est dès la construction de notre candidature, ce rassemblement qui me tient tellement à cœur.
Pour lui faire face, trois prétendants qui pèsent peu politiquement, à commencer par un juppéiste dont Laurent Wauquiez dit toutefois qu'il est le seul à avoir une ligne politique, Maël de Calan.
Déposons à 23 parrainages de parlementaires, plus de 3000 parrainages d'adhérents pour défendre dans ce congrès les couleurs d'une droite ouverte, d'une droite crédible, d'une droite qui, à notre sens, est la seule à pouvoir non seulement être utile dans les 5 ans qui viennent, mais surtout ramener les Républicains au pouvoir.
Deux autres candidats tenteront d'exister, le gaulliste social Daniel Fasquelle, l'ancienne porte-parole de François Fillon, Florence Portelli, d'ores et déjà une victoire pour Bernard Accoyer, actuel patron du parti.
Notre formation politique, dont on disait qu'elle pourrait n'avoir qu'un seul candidat, montre que le débat se déroulera entre quatre personnalités.
Quatre personnalités, quatre candidatures qui doivent encore être officiellement validées, réponse le 26 octobre.
Revenons à Emmanuel Macron, Patrice Biancone, que vous avez croisé et connu à l'Élysée.
Oui, pendant 3 années.
Le président s'apprête à ouvrir désormais de nouvelles négociations sur le deuxième volet de sa loi sur le travail. Après la flexi, voici maintenant la sécurité, en principe Pauline Glaize.
L'objectif du gouvernement avec ces réformes, c'est d'offrir davantage de protection aux travailleurs. Mais le climat de tension provoqué par les ordonnances sur le code du travail pourrait bien compliquer les discussions à venir. La partie la plus délicate, cela sera sans doute la réforme de l'assurance chômage. Emmanuel Macron a promis de l'ouvrir aux indépendants et aux salariés qui démissionnent. Mais à être plus nombreux à se partager le gâteau, les syndicats craignent que les parts se réduisent et que les allocations baissent. L'inquiétude porte aussi sur la gestion de ce régime. Alors qu'aujourd'hui, les partenaires sociaux sont aux commandes, le gouvernement veut désormais que l'État endosse un rôle plus important via une administration tripartite. Les partenaires sociaux pourraient donc voir leurs responsabilités diluées. Des prérogatives qui pourraient également être entamées par la réforme de la formation professionnelle. L'exécutif veut renforcer les droits individuels à la formation des actifs. Pour cela, il s'appuierait sur le compte personnel de formation et c'est là que le bât blesse. Une partie des cotisations serait directement orientée vers ce CPF sans passer par les organismes paritaires. Et puis au cours de ces entretiens, les leaders syndicaux pourraient bouleverser l'ordre du jour de l'Élysée et revenir sur les sujets qui fâchent, la réforme du code du travail par exemple.
Suite d'une semaine d'actualité, alors Patrice Biancone, vous écoutiez avec attention le reportage sur l'élection chez les Républicains, ça vous inspire un commentaire ?
Oui, écoutez, c'est simple, le paysage politique est ainsi fait qu'aujourd'hui, avec Emmanuel Macron à l'Élysée, eh bien, le terrain de la droite comme de la gauche s'est réduit. Et on voit bien que Wauquiez se déporte toujours plus vers l'extrême droite, dans ses idées, dans son corpus intellectuel aujourd'hui. Et voilà, c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir réformer encore aujourd'hui avec un gouvernement qui est pris entre une gauche de mélenchoniste, c'est-à-dire assez extrême et assez radicale dans sa revendication, et une droite qui va aussi vers l'extrême? Que reste-t-il au milieu pour négocier? Quel partenaire y a-t-il pour négocier, pour réformer ce pays?
Patrice Biancone, toujours éditorialiste politique, hein, comme il y a quelques années sur RFI aussi.
Sauf que ça là, m'intéresse êtes... toujours.
Oui. Ben, plus que jamais, j'imagine. Alors, Emmanuel Macron, vous l'avez connu, côtoyé à l'Élysée. Vous doutiez qu'il aurait ce parcours?
Non. Très honnêtement, quand je l'ai vu, alors effectivement, ce qui est surprenant, c'est le raccourci, ou les raccourcis qu'il a pris. C'est-à-dire la rapidité avec laquelle il s'est projeté à la tête de l'État. Effectivement, quand il est arrivé, on sentait bien qu'il était différent de la plupart des autres conseillers. Il était un peu moins terne, un peu plus enjoué. Il maniait l'humour en réunion. Il était un personnage ouvert, qui allait vers les autres, vraiment très ouvert. Voilà, un personnage qui est assez intéressant. Et on sentait bien quand il prenait la parole en réunion de cabinet, il y avait
Napoléon
un problème.
Napoléon bercé sous Bonaparte.
Oui, alors Valls était déjà là, de ce point de vue-là, avait pris quelques longueurs d'avance, mais on sentait bien quand il était là que oui, il était au-dessus de la mêlée et qu'il pouvait aller plus loin, qu'il avait les capacités de le faire. Et c'est peut-être ce qui a piégé François Hollande et Jean-Pierre Jouyet, qui voyait en lui un fils chéri, quelqu'un
inspecteur
qui,
de finances, en plus,
oui, qui était porteur d'aspiration, voilà, qui était leur continuité. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vu qu'il était très pressé, que c'était aussi un homme très pressé, un jeune homme très pressé.
Valérie Trierweiler a mis de la vitesse dans ma vie, écrivez-vous, Patrice. Je ne sais pas si un seul jour j'aimais cela aller vite.
Oui, je trouve que d'ailleurs, la pression médiatique incite, toujours plus à aller vite, aller vite, aller vite, aller vite, parce que la communication va de plus en plus vite. Et je crois qu'on s'y perd. On se perd parce que le cerveau n'a pas la rapidité d'un ordinateur, enfin bon, etc. Et puis il faut un temps d'adaptation aux idées, aux projets qu'on défend. Il faut que les gens les comprennent. Donc il faut prendre le temps de l'exposer. Or, ce que nous réclame sans cesse la presse. Quand on est de l'autre côté, ça c'est mon expérience, et je peux comprendre la demande du journaliste, mais je comprends aussi par moments combien les hommes politiques peuvent être, si vous voulez, aspirés, vidés de leur substance parce qu'ils n'ont plus le temps de réfléchir, parce qu'ils sont trop sollicités et qu'ils répondent trop souvent aux sollicitations. C'est la mésaventure de François Hollande.
Alors justement, Patrice Bianco, vous avez vécu ça de l'intérieur au fur et à mesure des crises dans le couple Trierweiler François Hollande. Vous vous êtes retrouvé, vous l'écrivez, voyeur malgré moi, et vous avez dû gérer les réactions de la presse, des journaux. Vous avez vu la machine médiatique en marche.
Oui, oui. C'est très impressionnant. Oui, c'est très impressionnant.
Et notamment les journaux People.
Écoutez, quand on est journaliste, on a l'impression, et qu'on observe le pouvoir, on a toujours l'impression qu'on sait tout du pouvoir. Et on a une opinion très tranchée. Oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il aurait dû faire comme ça, il aurait dû faire... Bon. Et puis, quand on passe de l'autre côté, quand on est embedded, quand on
embarqué.
Embarqué dans la machine, eh bien là, c'est une toute autre histoire. Parce que vous avez en face de vous, chaque fois, sur chaque sujet, un mur de journalistes. C'est-à-dire que vous êtes... Moi, le téléphone sonnait dans la journée, c'était la presse française qui m'a appelé.
C'est-à-dire qu'il y avait des motifs d'intérêt de la part de la presse.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'était la journée, c'était les médias français, le soir, c'était les médias américains, et le matin, c'était les médias d'Asie, etc., parce que ça intéressait le monde entier, cette aventure. Et donc, si vous voulez, moi, je dormais pas beaucoup. C'est quelque chose qui est très prenant, qui vous broie petit à petit et qui réclame sans cesse d'aller plus vite, encore plus vite, encore plus vite.
Et c'est ça qui est aussi fascinant dans votre livre, c'est que la différence énorme entre une situation, somme toute, classique d'un couple, sauf que c'est un couple qui est à l'Élysée, et le retentissement mondial de leur crise.
Oui, vous avez raison, c'est dans le fond une séparation, Pierre-Édouard, c'est quelque chose de tout à fait banal.
Chacun l'a vécu.
Bien sûr, tout le monde a vécu ça une fois dans sa vie, mais peu de gens l'ont vécu en étant sous les spots. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes en pleine lumière, la presse se régale des différends, des disputes, elle fait du buzz, ce qu'on appelle du buzz, c'est-à-dire, pour moi, le buzz, c'est un bruit par temps mort, c'est-à-dire que si François Hollande avait tout de suite agi, mis en place les réformes nécessaires dès le départ de son quinquennat, comme le fait aujourd'hui Emmanuel Macron, je pense que cette affaire d'histoire personnelle, de vie privée, n'aurait pas eu la couverture qu'elle a eue.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire et sur la page Facebook, une semaine d'actu de Facebook aussi. Un bonjour cette semaine à Maouna Christine à Cotonou, à Mamadou Condé et Luis Nazario à Conakry, à Ali Salé à N'Djamena, Sita à Sikasso, Souleymane à Bamako, et un salut également à Medouna Niamey, Romuald à l'université de Yaoundé, ainsi qu'à Akimou qui est doctorant en sciences de l'éducation à l'université de Lomé.
Une semaine d'actualité.
Et nous partons pour l'Afrique, cette fois un continent que vous avez aussi sillonné avec
Valérie Trier-Vélor, mais auparavant avec RFI, tout simplement. Pendant des années, avec un bonheur que j'évoque avec regret, parce qu'il y a des regrets, effectivement, de ne plus être aussi souvent sur ce continent, qui, ma foi, est un continent d'avenir, le dire, même s'il a beaucoup de difficultés.
Mais vous avez fait des voyages officiels aussi.
J'ai fait aussi beaucoup de voyages officiels, vous savez que...
À Kinshasa, par exemple.
Je voudrais saluer simplement le professeur Mukwege que j'avais rencontré sur place, qui est un personnage hors du commun.
L'homme qui répare les femmes.
L'homme qui, effectivement, selon ses propos, répare les femmes. Il en a soigné 40 000 à l'époque, quand j'y suis allé. Aujourd'hui, le chiffre doit être largement dépassé. Mais enfin, il faut signaler son action, soutenir son action, et faire en sorte que les violences... vous savez que le viol est devenu une arme de guerre dans ces régions, eh bien, pour que cessent effectivement ces violences envers les femmes. Voilà, je voulais dire ça professeur Mukwege, qui est un homme qui, à mon sens, a fait beaucoup et qui mérite beaucoup.
Alors Patrice, partons à Kinshasa, justement, où, comme dans le reste de la République démocratique du Congo, la perspective d'élection s'éloigne, comme nous l'a dit mercredi Léa Lisa Vestaroff.
Aucune annonce officielle, mais cette nouvelle échéance des élections en avril 2019 découle du calcul que la commission électorale a présenté à des organisations de la société civile à Kinshasa. Selon la CENI, il faut d'abord terminer l'enrôlement de tous les électeurs, une opération qui devrait s'achever à la fin de l'année seulement, les électeurs au Kasaï ayant tout juste commencé à s'enregistrer. Une fois cette étape terminée, la CENI estime qu'il lui faut 504 jours pour organiser l'ensemble des trois scrutins, les législatives, la présidentielle et les provinciales. Pourquoi 504 jours ? Officiellement, ce délai doit servir à nettoyer le fichier électoral, adopter les lois qui manquent, mais aussi préparer les listes de candidats, recruter et déployer les 650 000 agents qui devront superviser ces élections. Bref, toute une série de tâches pour lesquelles la commission électorale promet de publier un calendrier détaillé d'ici la fin du mois. Mais pourquoi l'enrôlement et le reste des opérations ne peuvent-ils pas être menés en parallèle ? Pourquoi 504 jours alors qu'en 2006 et en 2011, la CENI avait eu moins de temps pour préparer les élections? Voilà quelques-unes des questions qui se posent et qui font dire à l'opposition qu'il s'agit là d'une nouvelle manipulation pour reporter les élections et l'alternance au pouvoir.
Élections toujours, la présidentielle aura bien lieu, elle, au Kenya, avec plus de candidats que prévu. Nairobi, Abladjou Naidi, mercredi.
Le 26 octobre, la date est maintenue, sauf qu'ils ne seront plus deux candidats, mais huit. Les huit hommes ayant pris part au scrutin du 8 août annulé par la Cour suprême peuvent se représenter, selon le communiqué de la commission électorale. Pourquoi ? Car plus tôt dans la journée, la Haute Cour de justice avait exigé de la commission qu'elle fasse une place au candidat Ekuru Aukot, arrivé troisième le 8 août dernier, et qui s'estimait lésé d'avoir été écarté en vue du nouveau scrutin du 26 octobre. Dans la liste des huit candidats, il y a le président en exercice, Uhuru Kenyatta, il y a aussi Raila Odinga, l'opposant, qui a pourtant annoncé la veille son retrait de la course, faute de réforme. Mais selon la commission, le chef de l'opposition n'a tout simplement pas rempli le formulaire qui atteste de son retrait, il reste donc en course. Pas de réaction mercredi soir dans le camp de Raila Odinga. Mais sa position est connue, il réclamait depuis le début de la crise des réformes, notamment de la commission, pour permettre l'organisation d'élections libres et équitables. Mais à deux semaines du vote, il est permis de douter que cela se réalise.
Le gouvernement kényan qui a interdit les manifestations dans les trois principales villes du pays, à suivre bien sûr dans nos journaux et sur RFI.fr. D'ailleurs, RFI.fr vous propose aussi cette semaine un dossier complet et passionnant sur Thomas Sankara, 30 ans après sa mort. Il faut le préciser, je vous conseille vivement ce dossier. À suivre donc dans nos journaux et sur le site. Nous allons cette fois en Côte d'Ivoire, Patrice, pour une autre des informations à retenir cette semaine en Afrique. Le chef du protocole du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été en effet inculpé de complot. Pourquoi ? La réponse d'Abidjan lundi avec Frédéric Gara.
Les abords du palais de justice sécurisés par la police, le quartier quadrillé, les bureaux du procureur et du juge d'instruction qui doivent signifier son inculpation à Soultoussoul ressemblent à une forteresse imprenable. Mesure exceptionnelle de sécurité pour un homme, Souleymane Karamaté Koné, qui n'est autre que le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Christophe Richard Adou, procureur de la République.
Au regard de la gravité des faits de détention, de cession, d'armes de guerre et de munitions de première catégorie, ainsi que de complot contre l'autorité de l'État, Monsieur Kone Kamarate Souleymane a été interpellé ce lundi 9 octobre 2017. Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre lui et toute autre personne concernée.
6 tonnes d'armes de guerre au domicile de Souleymane Kone à Boaké, au plus fort des mutineries de mai dernier, cela a de quoi surprendre de la part d'un des commis de l'État ivoirien. Mais pour Moussa Touré, le chargé de communication du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, ce sont là des manœuvres politiques.
Soul Toussoul l'a dit, il n'est pas le propriétaire de ses armes, il ne les a pas acquises, il ne les a pas gérées. Sa maison a juste servi de lieu d'entreposage. Pour l'ensemble des forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui, sur ordre du président Alassane Ouattara, ont lancé l'assaut pour déloger Laurent Gbagbo du pouvoir. Ces armes ont été acquises par Soul Toussoul, il n'en a pas les moyens.
Il est 19h25 hier soir quand une fourgonnette grillagée quitte le palais de justice et traverse le plateau désert avec à son bord Soul Toussoul pour sa première nuit en cellule.
Une semaine d'actualité.
Et retour en France, Patrice Biancone, avant de vous entendre, de vous écouter à nouveau, retour à la politique française avec cette fois la création d'un média spécialement dédié à Jean-Luc Mélenchon, le leader de ce que l'on appelle les Insoumis, Anthony Lattier.
Créer le média pour contourner les médias présentés comme hostiles et sous influence. Gérard Miller, fervent soutien de Jean-Luc Mélenchon, l'assure pour autant, la pluralité sera respectée.
Il faut comprendre qu'on ne craint pas du tout le débat. Est-ce qu'il y aura des gens de droite? Mais bien sûr qu'il y aura des gens de droite qui pourront s'exprimer sur ce média. Après, c'est vrai que ce ne sera pas une télé qui fera du Mélenchon bashing. Ça, on peut considérer qu'il y en a suffisamment aujourd'hui.
Une rédactrice en chef, ex-journaliste à l'Express et à France Télévisions, a été recrutée. Elle soutient ne pas vouloir faire une télé militante, mais avec deux proches de Jean-Luc Mélenchon aux manettes et une ligne éditoriale alignée sur les valeurs défendues par la France insoumise, le projet cultive l'ambiguïté. Le professeur Christian Delporte, spécialiste de l'histoire des médias.
Dans ce genre de projet, il faut annoncer la couleur. Mais je pense que de ce point de vue, personne n'est dupe. On sait très bien que cette télévision sera la voix de France insoumise. D'une certaine manière, c'est le public qui va décider. Est-ce qu'il touchera au-delà des rangs de France Insoumise? À ce moment-là, on pourra dire que c'est un média d'une autre nature. Mais pour l'instant, c'est le média de Jean-Luc Mélenchon.
En parallèle, un autre mouvement réfléchit à lancer son propre média, La République en marche d'Emmanuel Macron.
Patrice Biancone, vous avez sans doute une opinion sur cette tendance des partis politiques à créer des médias pour eux.
Oui, c'est alors écoutez, pourquoi pas Mélenchon va créer sa télévision, mais pourquoi pas après tout. Mais ce qu'il faut dire, c'est que il conteste lui les médias, mais dans le fond, il a joué un jeu particulier avec les médias. Il conteste la façon dont les médias rendent compte de ses propos, de ses idées, mais n'est-ce pas lui qui a provoqué ce regard que l'on porte sur lui, c'est-à-dire celui d'un provocateur, d'un homme qui vient juste pour agresser ou qui ne peut pas s'empêcher dans un débat de renvoyer l'autre dans les cordes. C'est lui qui a fait ça. Et aujourd'hui, pourquoi se plaint-il des médias? C'est assez curieux, si vous voulez. Il nie sa propre responsabilité, alors il va créer un média, il va créer une télé. Ça fera une énième télé. Sans doute que les militants des Insoumis seront heureux de regarder cette chaîne, peut-être d'autres, pour connaître le fond de la pensée, bien sûr, de Mélenchon, puisqu'il représente quand même pas mal de Français aujourd'hui. Donc nous attendons, nous verrons.
Alors, la particularité, puisque nous parlons des médias, Patrice Biancone, de François Hollande, c'est qu'il adorait les médias. Alors, et évidemment, vous parlez de ce livre qu'il a fait chuter, on peut dire les choses comme ça, c'est le président qui parlait trop.
À mon sens, oui.
La panique à l'Élysée, vous le racontez très bien
oui,
dans ce livre.
Oui, parce qu'il y avait plusieurs discours qui émanaient du 55. Il y avait celui du président, il y avait celui des conseillers qui parlaient en off pour brouiller effectivement les pistes. Et puis il y avait celui des responsables de la communication. On en a eu quand même plusieurs en 5 ans. Alors vous aviez au départ Christian Gravel qui cherchait, si vous voulez, lui, à préserver. Il tenait la presse à distance, c'était sa stratégie. Quand il est parti en 2014, François Hollande était à 28% environ. Et puis Gaspard Ganzer est arrivé. Mm-hmm. Gaspard Ganzer, c'était la révolution, nous disait-on, de la communication du président.
Un énarque, une autre promotion.
Oui, alors Senghor, celle qui prend la place aujourd'hui, puisque Emmanuel Macron lui-même en est issu, celle qui prend aujourd'hui la place de la promotion Voltaire, qui est celle de François Hollande et de Jean-Pierre Jouyet, comme vous le savez. Et Gaspard Ganzer, lui, c'était le modèle Obama, mais il avait François Hollande comme client, si vous voulez. Donc, François Hollande n'est pas Obama, c'est pas le même personnel politique. Et donc, l'idée, c'était d'occuper tous les créneaux. On parle de moi, on parle pas des autres, si vous voulez. C'était un peu ça. Et or, moi, je le dis, la diarrhée verbale, etc., et on l'a vu avec Nicolas Sarkozy, ça n'a pas résolu les problèmes.
Et plus personne n'est écouté.
Et plus personne à la fin, quand vous intervenez sur tout et sur rien, eh bien, plus personne n'entend le message, plus personne n'est capable de hiérarchiser l'importance des propos que vous tenez et sur quoi vous les tenez.
Alors, à propos de la crise dans le couple François Hollande, Valérie Trierweiler, vous citez Gustave Flaubert, et ça, j'aime beaucoup cette phrase. L'avenir nous tourmente, le passé nous retient, c'est pour cela que le présent nous échappe.
C'est un peu ce que l'on a vécu avec François Hollande. Il y avait, vous connaissez l'épisode du tweet qui était né de la volonté du président François Hollande de soutenir Ségolène Royal qui était en difficulté à La Rochelle. Alors qu'il avait annoncé.
Au tout début du quinquennat.
Oui, c'est-à-dire l'élection du mois de mai pour le président, les législatives qui ont suivi, c'était en juin. Et le président avait eu cette formule, il avait dit « Je soutiens tous les candidats socialistes en général et aucun en particulier ». Ce qui voulait dire ce que ça voulait dire. Or, il se trouvait que au premier tour, Ségolène Royal s'est trouvée en ballotage face à Olivier Falorni et qu'elle avait besoin d'un coup de pouce, car elle était vraiment très en difficulté. Et le président a cédé, il a fait un mot particulier pour Ségolène Royal, ce qui d'ailleurs n'était pas très adroit sur le plan politique, parce que finalement c'était distinguer une candidate parmi les autres candidates, et ça n'a pas été très bien perçu.
Ce qui s'était juré de ne pas faire d'ailleurs.
Bien sûr, ce qui s'était juré au départ de ne pas faire. C'est pour ça que il y a eu la colère de Valérie, qu'il y a eu le tweet derrière, ben, puisque tu fais ça sans le dire, etc., que tu ne tiens pas ta parole, et ben moi voilà ce que je suis capable de faire, c'est ce qu'elle dit le jour où elle fait le tweet.
Alors ça a été le début d'une sérieuse crise.
C'était une crise très difficile à gérer. La première est arrivée tellement vite, si vous voulez, qu'on avait à peine eu le temps de se mettre en place, et même pas d'ailleurs, et ça a été terrible ce tweet.
D'ailleurs, on parlait de la presse tout à l'heure, mais il faut parler des réseaux sociaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui ont accéléré la vitesse.
Bien sûr, mais je crois qu'ils se tiennent par la main maintenant. Vous savez, l'un dépend de l'autre et l'autre dépend de l'un. Aujourd'hui, le contenu rédactionnel se fait souvent en fonction des réseaux sociaux, pour qu'il y ait des réactions sur les réseaux sociaux. Vous prenez les grandes émissions, celles de Ruquier, celles de même les matinales du matin, on cherche la petite phrase qui sera reprise sur les réseaux sociaux et qui va faire boule de neige, si vous voulez, qui va apporter du replay, qui va apporter de... Vous savez, on regarde à nouveau les émissions, c'est comme ça qu'il faut dire. Sur Internet, c'est ça. Donc il y a un bruit de tiroir-caisse qui est assez gênant, si vous voulez. C'est ce que je reproche un peu aujourd'hui à la presse, c'est qu'on la veut rentable et que finalement, être rentable, c'est devenu plus important que hiérarchiser les informations. Ouais. Et ça me gêne beaucoup, ça me désole. Et comme je le dis, ça peut même... certains jours, morifié.
Ouais. Et il y a donc aussi cette photo qui a mis un terme au couple, qui a fait exploser le couple, si j'ose dire, une crise de Valérie Trierweiler, que vous racontez très bien dans le livre. Là, on croit rêver quand on lit tout ça. On se dit, tout ça se passe à l'Élysée.
Oui. Oui, on a l'impression quand on est à l'extérieur que l'Élysée c'est une espèce de château fort dans lequel les personnels sont prêts à sacrifier tout, presque y compris leur vie pour le président de la République. Or c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe.
Chacun roule pour soi.
Ben il y a encore une vie de cour, si vous voulez.
Ah, c'est la fameuse cour.
Eh ben oui, ça existe encore. Il y a une vraie lutte d'influence qui se joue au niveau des conseillers. Qui va avoir la main sur tel dossier, qui va être prépondérant sur tel conseil, tel engagement, enfin bon, etc.
Et c'est même plus mince qu'encore, parce que vous le racontez.
Parfois, les conseillers se piquent les idées, si vous voulez. Parce qu'il y a une hiérarchie. Il faut le dire. À l'Élysée, vous avez deux sortes de conseillers. Vous avez les conseillers, comme on dit ça, c'est un ministre qui l'a théorisé. Vous avez les conseillers du haut et les conseillers du bas. Les conseillers du haut sont les très très proches. C'est ceux qui participent aux vraies décisions sur la finance, sur l'économie, sur l'éducation nationale, sur les sujets un peu régaliens et les sujets très importants.
Ça, c'est très ancien régime, le conseil d'en haut avec le roi.
Bien sûr. Mais oui. D'ailleurs, vous avez deux réunions. Vous avez une réunion de cabinet qui regroupe tous les conseillers. qui était au nombre d'une, un peu plus d'une trentaine au départ, quand on a débuté. Et puis vous avez une fois ou deux fois, voire trois fois par semaine, une réunion vraiment resserrée avec les quelques conseillers dont je parlais. Ouais. Il y a deux vitesses, si vous voulez. Alors ceux d'en haut, les conseillers d'en haut, ils ont un vrai pouvoir d'imposer des décisions. On l'a vu quand Emmanuel Macron était secrétaire général adjoint d'Élysée, la loi croissance, enfin ça c'est quand il est passé ensuite à Bercy, mais tout ce qui a été fait auparavant, c'était sous sa direction. Il choisissait quand même, mais il peut pas dire aujourd'hui qu'il est totalement étranger au bilan de François Hollande. Mais d'ailleurs, ça peut l'arranger puisque les fondamentaux redeviennent bons.
Oui.
Donc il peut dire, ah bah oui, j'étais un peu pour quelque chose.
Ça s'appelle la politique.
Ça s'appelle la politique.
Merci Patrice Bianconi.
Un jour on revendique. C'est l'affaire de la politique.
Merci Patrice Bianconi. Il faut lire absolument votre livre, La malédiction de l'Élysée, comment ils ont gâché la fête. On comprend mieux comment cela fonctionne et on comprend mieux aussi ce qui s'est passé pendant ces 5 années. Là, votre livre est à la fois un témoignage et une analyse du pouvoir. Il est publié au Cherche Midi.
Merci Pierre-Edouard.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées, le magazine qui, vous le savez, interroge ceux qui pensent le monde. Et figurez-vous que nous allons parler d'une tendance actuelle, d'un mode de vie, d'une philosophie de la vie, le véganisme. À l'occasion de la sortie au PUF d'un livre sur ce sujet très contemporain, ne pas manger tout ce qui ressort du monde animal. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.